C'est l'heure des bonnes nouvelles sur Radio Alto.
Un prix Nobel pour les Bauges. Un texte de Serge Thébert, lu par Serge.
Un prix Nobel pour les Bauges. Jour J, moins 3. Comme ils le font depuis 2 ans, les préfets de Savoie et de Haute-Savoie, les présidents des communautés de communes voisines du massif des Bauges, la maire de Lécheraine et d'autres élus des Bauges se réunissent ce 25 juillet 2050 en prévision de l'arrivée de Chloé. Gestion des flux migratoires venus des vallées entourant le massif, mise à disposition des infrastructures, positionnement des forces de sécurité. Francine prend beaucoup de notes pour son émission d'information de 8 heures sur Radio Alto. Elle va devoir le lendemain informer et rassurer ses auditeurs à J-2. Dans la salle municipale, le public est nombreux. Adrien est venu avec son petit-fils Jacques, car celui-ci avait insisté. Il était convenu avec Robert, son copain de crise, qu'il se retrouverait à la réunion. Dès les années 2020, le dérèglement climatique se manifesta avec l'élévation des températures et la fonte des glaciers. Malgré des tentatives, surtout orales et assez dérisoires, de limiter le réchauffement à 1,5, voire au pire à 2 degrés, la dégradation s'accéléra jusqu'au 27 janvier 2045 où les scientifiques observèrent les premières hésitations des grands courants océaniques. Dès le milieu de cette année néfaste, après quelques soubresauts, le Gulf Stream cessa de tiédir les côtes européennes. Il inversa carrément son cours, entraînant une chute des températures de 3 degrés en moyenne sur toute la façade atlantique et une instabilité du climat continental soumis à de fortes variations de température. C'est fin juillet 2047 que se présenta Célia, le premier véritable cyclone à toucher notre région. Formé au large de la Corse, il dévasta Aigues-Mortes. Ses remparts retrouvèrent leur fonction de digue face à la Méditerranée qui avait repris ses droits sur presque tout le delta du Rhône. Célia laissa des stigmates tout au long de la vallée du Rhône en remontant le fleuve dont il s'était nourri jusqu'à l'abandonner pour puiser une force nouvelle dans les eaux de nos deux principaux lacs alpins. Son passage provoqua un traumatisme considérable. Des tonnes d'eau du lac d'Annecy furent aspirées et remontèrent le long du Semnoz et du Mont Verrier, créant des torrents de boue qui emportèrent bon nombre des maisons des bords du lac, arrachant les toitures, précipitant des centaines de voitures dans le lac, dévastant le jardin de l'Europe et faisant 203 victimes. La France, solidaire dans l'épreuve, diligenta tous les secours nécessaires. Un hôpital de campagne fut installé à Léchaud pour pallier les insuffisances de l'hôpital d'Annecy, dont les infrastructures électriques avaient été endommagées. Curieusement, le massif des Bauges fut épargné. Francine couvrit ce drame qu'on croyait réservé aux contrées tropicales. Elle gardait en mémoire des interviews poignantes, certaines désespérées comme celle du petit Robert, dont la mère avait été emportée par la boue. Les médias s'emparèrent de ce fait divers et cela alimenta journaux et plateaux télé pendant quelques jours. Puis Léa, Lise, Sonia, Laura se succédèrent au cours des 2 années suivantes. Qui a instauré cette fâcheuse habitude de nommer par des prénoms féminins ces catastrophes dont la violence n'a rien de féminin? Frappant alternativement ou simultanément les lacs d'Annecy ou du Bourget, ces cyclones épargnaient les Bauges, situés chaque fois dans l'œil du cyclone, comme si le mur du cyclone, qui comporte les vents les plus violents, contournait le massif, qui devenait une sorte d'île préservée des tempêtes. Des scientifiques s'intéressaient d'ailleurs à ce phénomène météorologique si particulier, et diverses théories étaient avancées, notamment celle d'un magnétisme des Bauges, repoussant le mur du cyclone dans la dépression des vallées voisines. D'autres n'avaient rien de scientifique, arguant d'une volonté divine de revaloriser le massif, longtemps méprisé par les riches vallées, ou d'une juste récompense, des efforts méritoires consentis par une population militant dès la fin du XXe siècle pour l'écologie. Peu à peu, des habitudes sont prises à l'annonce de l'arrivée future d'un cyclone. De plus en plus d'Annéciens, d'Aixois et d'autres habitants des contreforts des Bauges montent au refuge. Les Bauges doivent donc gérer ces mouvements de population et c'est l'objet de cette réunion du 25 juillet. Les procédures sont maintenant bien réglées. Les routes d'accès aux Bauges sont élargies. L'hôpital de campagne s'est sédentarisé. Dès l'annonce de Chloé, des tentes sont dressées, les gymnases et diverses salles de réunion ou de fêtes transformées en centres d'accueil. Certaines granges sont même aménagées et l'on peut attendre Chloé avec confiance. On peut compter sur le sens de la solidarité et de la fraternité des Baugeus pour aider les exilés climatiques à passer ces jours si pénibles. Le temps que passe le cyclone, qui va, comme les précédents, on en est certain, s'écraser contre les Alpes et se disperser. Jour J, moins 2. Robert retrouve Jacques. Son père veut à tout prix qu'il ne revive pas la sauvagerie du cyclone qui a emporté sa mère. Lors de la réunion, ils ont préparé sa venue chez Adrien, le grand-père de Jacques. Les deux enfants connaissaient par cœur les prés et les forêts qui entouraient sa ferme. Ils apprenaient, en jouant, les codes de la nature. Pour eux deux, l'annonce d'un cyclone, c'était avant tout une semaine de nature et de jeu, même si l'angoisse des adultes les inquiétait. Chloé, elle vient à la même date que Célia, il y a 3 ans, dit Robert. Un voile de tristesse passe sur son visage. Jacques prend Robert dans ses bras et l'entraîne vers la ferme d'Adrien, vers leur cabane, adossée à l'intérieur d'une haie touffue, taillée en V. À part quelques branches tombées et quelques trouées de feuillage sur le toit, ils retrouvent leur havre de paix et ont tôt fait de tout remettre en place. Cette activité fait oublier les douloureux souvenirs de Robert et l'approche inquiétante de Chloé. Devant la répétition de ces phénomènes météorologiques extrêmes, les habitants du bord du lac se sont lassés de faire chaque année appel aux couvreurs qui prospéraient. Le coût de l'immobilier des communes riveraines qui avaient atteint des sommets s'est effondré. On assistait à un exode vers le massif, ce qui irritait bon nombre de Baugeus. Autant ils étaient prêts à aider, autant ils ne voyaient pas d'un bon œil la colonisation de leur vallée par les citadins. De fait, les prix des terrains s'envolaient, les constructions se multipliaient, les villes limitrophes, par souci de sécurité, s'exportaient sur le massif. Dans l'émission du matin, Francine dresse un compte-rendu fidèle de la réunion de la veille en s'efforçant de rassurer. Les élus responsables certifient que tout est prêt pour accueillir les réfugiés des vallées. Elle rappelle aussi à ceux qui envisagent de monter au refuge de préparer leur nécessaire pour une semaine, sac de couchage, affaires de toilette, rechange et petits cadeaux pour remercier les hôtes. Plein d'essence s'ils comptent prendre leur voiture, bien que les transports en commun soient conseillés. Pour ceux qui pensent rester chez eux, il s'agit de calfeutrer les ouvertures, d'abriter tout objet susceptible d'être emporté et de se tenir proche d'une source d'information. Dans les vallées, sur les lacs et dans le massif des Bauges, l'activité est fébrile et la tension monte. D'autant plus que les nouvelles venues de Méditerranée sont inquiétantes. Chloé a évité la Corse, mais s'est renforcée. Et déjà, des vagues puissantes dévastent les marais salants près d'Aigues-Morte. Jour J, moins 1. Des files de véhicules convergent vers le massif des Bauges. Les départs échelonnés permettent aux émigrés des vallées de rejoindre leur refuge. Chloé suit le même trajet que ses prédécesseurs. On sent déjà les prémices du cyclone agiter les arbres dans les parcs. Chacun se pelotonne et attend. Jour J. Chloé provoque un mini tsunami qui inonde les rives du lac d'Annecy et du lac du Bourget. Les dégâts matériels sont importants, mais il n'y a aucune victime. Dans le massif, Beaujeu est déplacé, assiste au désastre habituel avec fatalisme. Jour J plus 5600. Jacques termine sa thèse sur la dynamique des cyclones, alors que Robert termine major de sa promotion des mines dans sa filière de physique appliquée, aérodynamisme des matériaux. Jour J plus 7441. Robert et Jacques sont honorés par le prix Nobel d'écologie, attribué pour la première fois à des Français le 13 décembre 2070 pour leurs travaux sur The Cyclonic Division, aboutissant à l'affaiblissement significatif de la violence d'un cyclone et à l'utilisation de la force dégagée pour produire de l'électricité. Extrait de leur discours de réception à Stockholm. Finalement, c'est Jacques qui parle. Nous avons développé une idée que nous avions eue lorsque, enfants, nous avions construit notre cabane à l'abri d'une haie taillée en pointe, comme une étrave de navire. Nous avions remarqué que cette configuration protégeait notre cabane des vents qui traversaient les Bauges. Il suffisait d'appliquer ce principe à grande échelle pour perturber la spirale d'un cyclone, l'affaiblir par une aspiration que nous avons appelée « intermittent synthetic aspiration » et à canaliser les courants d'air obtenus vers des turbines, somme toute assez classiques. Je dédie ce prix à mon grand-père, qui nous a appris à aimer la nature, à l'utiliser avec justesse et à la préserver.
Cette nouvelle a été écrite dans le cadre du concours d'écriture Les Bonnes Nouvelles des Bauges. Les recueils sont disponibles à la vente au studio de Radio Alto.